Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, lisons ensemble ce soir, encore une fois de plus, dans le prophète Néhémie et le chapitre 3e. Néhémie, chapitre 3. Un chapitre qui a été inspiré, qui mérite d'être lu et médité. Chapitre 3. Alors, Éliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et imposèrent les bâtons, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Meïa, jusqu'à la tour de Hananiel. À côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho, et à côté d'eux bâtit Zakur, fils d'Imri. Et les fils de Sana bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Et à côté d'eux répara Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. Et à côté d'eux répara Meshelom, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. Et à côté d'eux répara Tsadok, fils de Baana. Et à côté d'eux réparèrent les Kékorites. Mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur seigneur. Et Jehoiada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les bâtons et les verrous et les barres. Et à côté d'eux réparèrent Malatia, le Gabaonite, et Jadon, le Meronotite, les hommes de Gabaon et de Mitzpah, vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. À côté d'eux répara Uziel, fils de Haraya, l'un des orfèvres, et à côté de lui répara Hanania, d'entre les parfumeurs, et ils laissèrent Jérusalem en son état jusqu'à la muraille large, et à côté d'eux répara Rephaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem, et à côté d'eux répara Yedaya, fils de Harumaph, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de lui répara Hattush, fils de Hashabnia, Malkia, fils de Harim, Hashub, fils de Pakhat, Moab, réparèrent une seconde portion, et à la tour des fours. Et à côté d'eux réparèrent Shalom, fils d'Alochesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et posèrent ses bâtons, ses verrous et ses barres. Et fit mire coudée de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Et Malkija, fils de Rekab, chef du district de Bet Hakerem, répara la porte du fumier et la bâtit et posa ses bâtons, ses verrous et ses barres. Et Shalun, fils de Kol Hosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la fontaine. Il la bâtit et la couvrit et posa ses bâtons, ses verrous et ses barres. Il fit aussi la muraille de l'étang de Siloé, près du jardin du roi et jusqu'aux degrés qui descendent de la ville de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbouk, chef de la moitié du district de Bet-Sur, répara jusque vis-à-vis des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été fait, et jusqu'à la maison des hommes forts. Et après lui, réparèrent les Lévites, Rehum, fils de Bani, à côté de lui, Hashabia, chef de la moitié du district de Kehila, répara pour son district. Après lui, réparèrent leurs frères, Bavaï, fils de Henedad, chef de la moitié du district de Kehila, et à côté de lui, Reza, fils de Yeshua, chef de Mitzpah, réparait une seconde portion vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec zèle une autre portion depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib, le grand sacrificateur. Après lui, Meremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'au bout de la maison d'Eliashib. Et après lui, réparèrent les sacrificateurs, hommes de la plaine de Jourdain. Après eux, Benjamin et Hashub réparèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maasekia, fils d'Anania, répara à côté de sa maison. Après lui, Benui, fils de Henadad, répara une seconde portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin Palal. Fils de Zaï répara vis-à-vis de l'angle et de la haute tour saillante de la maison du roi qui touche à la cour de la prison. Après lui répara Pedaïa, fils de Parosh. Or, le Nethinéen demeurait en Ophel, jusque vis-à-vis de la porte des eaux au levant et de la tour saillante. Après lui, les Tekohites réparèrent une seconde portion vis-à-vis de la grande tour saillante et jusqu'au mur d'Ophel. Les sacrificateurs réparèrent au-dessus de la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, répara vis-à-vis de sa maison. Et après lui, répara Shemahia, fils de Shekania, gardien de la porte du levant. Après lui, Hanania, fils de Shelemia, et Hanun, sixième fils de Tsalaf, réparèrent une seconde portion. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, répara vis-à-vis de sa demeure. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, répara jusqu'à la maison des Nethiniens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Mifrad, et jusqu'à la montée du coin. Et entre la montée du coin et la porte des brebis, réparèrent les orfèvres et les commerçants. Et peut-être il y en a des jeunes qui disent, mais qu'est-ce qu'on va tirer d'un chapitre comme ça? Bien, mes chers amis, il ne faut jamais s'approcher de la parole de Dieu d'un tel esprit. C'est pour cela que je viens de dire, cet épître a été inspiré de Dieu. Et toutes les paroles dans la parole de Dieu, tous les mots sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Et dans ce chapitre, avec l'aide du Seigneur, nous allons trouver un enseignement qui est très pratique pour chacun et chacune de nous. C'est pour cela que nous devons approcher ce chapitre dans un esprit de prière et dans un esprit de dépendance aussi, pour que nous puissions saisir l'enseignement que le Seigneur a pour nous ce soir, pour moi et pour nous tous. Nous avons donc vu hier soir, avec l'aide du Seigneur, que nous sommes, nous, les chrétiens, nous, les membres du corps de Christ, si nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, nous, membres du corps de Christ, nous sommes aussi la maison de Dieu et nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes des objets d'une immense grâce, des immenses privilèges. Imaginez-vous que dès avant la fondation du terre, Dieu le Père nous a choisis, élus, rendus agréables dans le bien-aimé. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà vu l'épouse qu'il va donner à son Fils. Et nous sommes nés, vous et moi, dans une période depuis Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, une période avec des privilèges et des bénédictions tout à fait spéciales qui n'ont jamais été données à un peuple sur la terre. Est-ce que nous réalisons cela, ce privilège? Entre parenthèses, on pense toujours que la destination éternelle pour une âme, donc une âme rachetée, ce sera le ciel. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a donc des rachetés qui ne seront pas dans le ciel, mais qui seront éternellement sur la terre, la nouvelle terre dont parle l'Apocalypse. Mais il y a un peuple, il y a des privilégiés, l'épouse de Christ qui sont à côté de lui dans la maison du Père. Imaginez-vous que vous et moi, par la grâce de Dieu, nous sommes donc l'épouse de Christ. Quand on médite cela et on regarde cela dans la présence du Seigneur, est-ce que nos cœurs ne débordent pas de reconnaissance? Est-ce que nous réalisons vraiment nos privilèges, mais aussi nos responsabilités? Et nous nous joignons à Néhémie dans le même esprit, lui qui menait deuil pour la ruine qu'il voyait dans ce peuple ancien, Israël, aussi privilégié. Est-ce que nous menons deuil aussi aujourd'hui, quand nous voyons qu'il y a 2000 ans de ruines dans l'Église de Christ, 2000 ans de faiblesse jusqu'à maintenant, des divisions, des dénominations, des sectes qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. Et encore plus proche, si nous avions eu donc le privilège de réaliser que les systèmes humains ne sont pas selon Dieu, et que nous devons nous séparer de tout ce qui n'est pas selon la pensée de Dieu pour nous rassembler pour le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces principes si précieux? Est-ce que nous les avons appliqués, suivis fidèlement dans notre vie de chaque jour, dans nos maisons, dans nos assemblées? C'est certain que ceux qui ont des familles, nos foyers, nos maisons sont une sorte de mini-assemblée. Parce que si la santé spirituelle de nos foyers est en bon état, ça aura donc certainement une réflexion, une influence dans la vie de l'assemblée. Et l'ennemi le sait très bien. Quand il peut détruire ce noyau, la famille, des enfants de Dieu, alors il peut ainsi infiltrer dans l'assemblée de Dieu. Et nous le voyons autour de nous aujourd'hui. Donc, nous nous sommes rendus compte hier, j'espère, des besoins qui sont dans notre sein, dans notre milieu, dans nos milieux, autour de nous, dans le monde soi-disant chrétien, des besoins énormes. Il y a des besoins dans le cœur de mon frère à côté de moi. Il y a des besoins dans le cœur de ma sœur à côté de moi. Ici, sur les bancs, il y a des besoins. Il y a des grands besoins. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous portons les uns les autres? Est-ce que nous portons les fardeaux les uns les autres dans la prière, dans la communion fraternelle? Voilà le défi. Le défi. Et quelle sera notre réponse? Le frère est aussi dans le cantique. Le frère l'a mentionné dans sa prière et aussi dans le cantique que nous aurons donc un esprit de souci l'un pour l'autre, d'amour, de disponibilité. Seigneur, fais-moi en bénédiction. Voilà l'esprit donc de Néhémie qui, arrivé sur l'endroit, à Jérusalem, a fait donc une réévaluation de la situation. Et nous nous sommes dit l'un à l'autre par l'Esprit de Dieu, oui. Est-ce que ce n'est pas l'heure? Est-ce que le moment n'est pas arrivé, mes chers frères et sœurs, de nous asseoir dans la présence du Seigneur et de réévaluer la situation? De regarder notre état spirituel aujourd'hui? Je ne parle pas simplement de Pau ou de Ipswich. Je parle là où se trouvent les saints de Dieu. Donc, investiguer, être concerné, chercher à savoir, à connaître la pensée de Dieu pour aujourd'hui et les ressources qui sont les nôtres. Et l'appel, nous l'avons entendu, le Seigneur cherche des réparateurs des brèches, des murailles qui sont en ruine, des portes qui sont en ruine, qui sont brûlées, pour réparer ces murailles et ces portes. L'appel a été donné, venez, bâtissons. Et ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Chapitre 2, verset 18. Et avec une détermination sainte, ils sont donc commencé. Et c'est là où nous arrivons ce soir dans ce chapitre 3, troisième. L'accomplissement. Ah, il ne suffit pas de se rendre compte de nos besoins. Il faut aussi réaliser que il y a des solutions, mes chers frères et sœurs. Il y a des réponses. Il y a un Dieu puissant. Il y a une plénitude de l'Esprit pour nous aujourd'hui. Et s'il y en a des brèches, et s'il y en a des murailles qui sont ruinées et peuvent être restaurées, est-ce que nous avons le désir qu'ils soient restaurés? Et est-ce que nous sommes disponibles? Seigneur, me voici. Si tu veux m'employer. Mais pour cela, il y a quand même une préparation d'esprit. Un esprit humble. Un esprit qui sait juger soi-même dans la présence du Seigneur. Pas un esprit de supériorité qui dit, il a eu tort, elle a eu tort. Qui vient? Non, le Seigneur n'a jamais raisonné comme ça. Il est venu vers nous. Nous qui l'ont haï. Ainsi donc, nous pouvons voir dans ce chapitre troisième le besoin et l'endroit où il faut commencer à accomplir cette activité constructive. Peut-être quelqu'un pose la question, mais les besoins sont tellement grands, où est-ce qu'il faut commencer? Nous voyons dans plusieurs versets, verset 10, verset 23, verset 29, et verset 30, la réponse sur cette question. Où est-ce qu'il faut commencer? Dans ces quatre versets, nous lisons cette expression vis-à-vis de sa maison. Vis-à-vis de sa maison. Nous avons dans le verset 10, Yedaya, fils de Harumaph, répara vis-à-vis de sa maison. Yedaya veut dire invocateur de Yah. Ou Yahweh. Cela nous parle de la prière, l'importance de la prière. La prière ensemble, le frère et son épouse. Est-ce que nous prions encore dans nos foyers, les genoux ensemble? Ou est-ce que nous l'avons fait quand nous sommes juste mariés, les premières années peut-être, mais maintenant? J'étais dernièrement dans un foyer sur le continent. Un frère et sœur dans l'assemblée, dans les âges de 60, ils ne lisent jamais la parole ensemble. Ils ne prient jamais ensemble. Est-ce que c'est possible? Et ils rompent le pain à la même table du Seigneur, hommes et femmes qui ne prient pas ensemble. Et est-ce qu'on prie encore ensemble en famille? Est-ce qu'on plie encore les genoux le soir avant de se coucher? Ou le matin avant de commencer? Si c'est possible pour des familles qui se trouvent le matin ensemble, peut-être le papa ne peut pas toujours être là. Mais donc, est-ce qu'il y en a des moments pendant la journée qu'on se met à genoux en famille pour invoquer Yah, Yedaya? Il y a dans le verset 23, Hashub. Il dit de lui, Hashub et Benjamin réparèrent vis-à-vis de leur maison. Hashub. Ça veut dire associé, celui qui s'associe, qui se joint, qui veut réaliser la communion dans son foyer, dans sa maison. Benjamin, nous savons très bien, c'est le fils de la main droite, mais il y a un verset qui est très frappant et très touchant dans le livre de Deutéronome, et le chapitre 33, Deutéronome 33, verset 12, qui dit, de Benjamin, il dit, Deutéronome 33, 12, le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira tout le jour et il habitera entre ses épaules. Que c'est merveilleux! C'est la sécurité entre ses épaules. Est-ce que nous ne souhaitons pas la sécurité de nos foyers, chers frères et sœurs? Cette protection divine, aujourd'hui, si nécessaire, puisque l'ennemi cherche à entrer, infiltrer dans nos foyers, est-ce que nous veillons de ce qui entre dans nos foyers, peut-être par nos enfants? Je me souviens encore une fois, dans un groupe de jeunes, on avait des questions. Un jeune me demandait, « Frère Bruns, qu'est-ce que vous pensez du rock ?» Il y a de la musique aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, qui n'est pas pour un chrétien, qui n'est pas pour un enfant de Dieu. Je ne vais pas donner un enseignement sur la musique ce soir. Mais il y a de la musique aujourd'hui qui n'est pas pour toi, mon enfant de Dieu, croyant. Il y a de la littérature qui ne doit pas se trouver dans les maisons des croyants. Est-ce que nous prions pour la protection du Seigneur, pour notre maison? Et pour cela, il faut diriger nos jeunes. Ils ne peuvent découvrir tout cela seuls. Ils ont besoin donc d'aide. Pas d'imposer nos pensées sans raisonner. Il faut être raisonnable pour pouvoir dire avec autorité et connaissance des choses. C'est pas ainsi, mes jeunes. C'est comme ça. Donc, dans le verset 29e, il y a Tsadok, qui répara aussi vis-à-vis de sa maison. Son nom veut dire justice, pureté. La pureté, d'être gardé de la corruption qui est autour de nous. Marchant dans les rues, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les murs, dans les magasins, dans les journaux, les visages qui sont sales et corrompus. Combien nous avons besoin de prier, Seigneur, protège-moi, de me garder dans une pureté de cœur. Peut-être il y a des jeunes ici ce soir qui disent dans leur cœur, moi je suis croyant, mais je suis troublé par des pensées sales et impures. Quel est le remède pour cela, cher ami? C'est l'ennemi qui cherche partout d'infiltrer. Il y a un verset qui peut aider peut-être. En Philippiens chapitre 4, je suis sûr qu'elle peut aider, ce verset. Mettons-le en pratique donc. Philippiens 4 et verset 8. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Voilà. Être occupé avec ces choses, c'est un remède contre les pensées impures. La protection, la pureté. Et finalement, dans le verset 30e, c'est Meshulam. Meshulam, c'est un homme remarquable, fils de Berechia, répara vis-à-vis de sa demeure, en anglais il dit chambre, pas maison, chambre. Pourquoi chambre? Est-ce qu'il a vécu une vie de sacrifice de telle manière qu'il s'est dit non, j'ai pas besoin d'une grande maison, il me suffit une chambre. Aujourd'hui, on a une maison et on se fatigue, on se tue dans le travail pour avoir une plus grande maison et encore une plus grande maison. On se fatigue énormément aujourd'hui pour maintenir un niveau de vivre qui est difficile à maintenir. Et on se tue dans le travail, presque. Et on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste pour le Seigneur. Meshulam, ça veut dire dévoué, le dévouement. Dévouement de consacration, dédicace au Seigneur, de le donner lui la première place. Donc, il resterait des murailles. Pour nous, ça veut dire la séparation au Seigneur, pour lui, être pour lui, entièrement pour lui, à l'exclusion de toute autre chose, muraille. Et les portes, la restauration des portes, c'est la communion avec le Seigneur. La porte. Le Seigneur le dit. Si tu veux prier, entre dans ton cabinet, ta chambre, ferme la porte. Et prie. Voilà, c'est là qu'il faut commencer, donc. Là, chez nous. Chez nous. Et si chez nous, c'est un bon état, si chez nous, le Seigneur a la première place, on aura donc l'influence bénie dans la vie de l'Assemblée aussi. Alors, des relations, selon Dieu, entre Marie, son épouse, entre les parents et leurs enfants, et de veiller que l'ennemi n'entre pas. Deuxièmement, nous avons les ouvriers, ceux qui sont donc actifs. En d'autres termes, des membres dans le corps de Christ qui fonctionnent. Il n'y a personne ici ce soir, si cette personne est régénérée par l'Esprit de Dieu, qui peut dire, moi je suis inutile, moi je n'ai rien à faire. Ça, c'est une contradiction de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Comme des membres dans le corps de Christ, chacun et chacune, sœurs et frères, nous avons une fonction à remplir dans le corps de Christ. Humble que ce soit, mais déjà donner la première place au Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et de chercher de le manifester, lui, dans la famille, dans le cercle où le Seigneur nous a placés, de servir les uns les autres. Donc, il y a le besoin, c'est clair, pour une activité constructive. Nous avons vu que la muraille est en ruine, chapitre 1, verset 3. Donc, dans ce chapitre, nous avons vu, chapitre 1, que le serviteur était disponible. Dans le chapitre 2, que son chemin avait été préparé par Dieu, la main de son Dieu était avec lui. Et alors maintenant, cet accomplissement du travail, c'est l'issue d'un réveil personnel. Nous avons donc besoin, moi et vous, nous avons besoin d'être réveillés, un réveil spirituel, que de retourner, pas en assemblée seulement, mais de retourner personnellement au Seigneur Jésus pour nous demander, est-ce que je vis vraiment pour lui dans tout ce que je fais? Il y a donc le besoin d'une activité constructive. Il y a aussi un travail pour chacun et chacune de nous. Nous voyons dans ce chapitre une diversité qui est frappante d'activités ou des personnes qui font ces activités. Mais en même temps, avec cette diversité, il y a une unité. Ce n'est pas une contradiction. Nous trouvons en 1 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul décrit le corps de Christ, il parle d'un seul corps et avec divers membres. Diversité dans l'unité. Et le maintien de cette unité, c'est l'amour mutuel entre frères et sœurs. C'est le respect mutuel l'un pour l'autre. De respecter les uns les autres, de les aimer, de nous encourager les uns les autres. Et qu'est-ce que nous voyons? Il y a ici dans le verset 1, des sacrificateurs. Dans le verset 17, des lévites. Il y a aussi dans le verset 5, des nobles principaux. Dans le verset 8, des orfèvres. Il y a dans le verset 8, des parfumeurs. Le verset 9 et ailleurs, des chefs. Il y a des commerçants, verset 31. Donc, une diversité. Mais chacun volontaire. Ils ont dit, n'est-ce pas? Levons-nous et bâtissons. Ils n'étaient pas obligés, ils n'étaient pas imposés. Non, ils se sentaient touchés dans leur cœur et leur conscience. Et c'est cela qui est important. Est-ce que nous nous sentons impliqués? Et avec cet esprit libre, on n'a pas besoin des commandements et des lois. Le service du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un devoir. C'est par amour pour lui. Si nos cœurs débordent de joie, on le sert, pas par obligation. On n'a rien compris. On n'a rien compris de la vie chrétienne normale si on pense que nous sommes sous les règles et sous le commandement. C'est le légalisme. Le légalisme, c'est une substitute pour la spiritualité. Nous trouvons souvent là, où il y a un manque de spiritualité, il y a un esprit de légalisme. Recherchons ici et là. Légalisme, on peut être fier de ce qu'on a accompli. J'ai pas fait ça, et je n'ai pas fait ça, j'ai fait ça, et on est content. Mais ça, c'est pas la vie chrétienne. Pas des lois imposées de l'extérieur, mais une personne dans l'intérieur qui nous dirige. L'esprit d'amour qui nous pousse. L'amour de Christ. 2 Corinthiens 5. Donc, cet esprit a rempli les cœurs de tous ses volontaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir, un frère ou une sœur, qui attend le moment psychologique pour commencer avec une activité constructive? Est-ce que nous attendons le moment psychologique, pour ainsi dire, de nous humilier devant le Seigneur pour peut-être prendre le premier pas vers quelqu'un pour pouvoir réparer les brèches? Il y avait donc, troisièmement, aussi une harmonie merveilleuse. Dans les 12 premiers versets, déjà, nous lisons 11 fois cette expression « à côté d'eux ». À côté d'eux. Oh, mais vous dites, ce frère, il m'est insupportable. Et cette sœur, elle m'énerve. Alors, ça détruit déjà tout de suite cette pensée à côté d'eux. Si on ne peut pas se supporter les uns les autres, on ne peut pas. Donc, travailler ensemble, servir ensemble à côté d'eux. C'est justement cela que l'ennemi cherche à introduire parmi nous. Une différence, une division. Et on ne peut pas servir ensemble dans une harmonie à côté d'eux. Il faut s'accepter les uns les autres, comme le Seigneur nous a acceptés. Et ne pas juger les uns les autres. Il y avait donc une rivalité, mais pas une mauvaise rivalité. Il y avait là donc une rivalité, une provocation à un saint zèle pour être tous zélés pour lui. Se provoquer. Ils se provoquaient les uns les autres. Nous allons voir cela dans leur activité. Quatrièmement, il y avait aussi de la bénédiction. Oui, l'Éternel a béni ces hommes qui se sont offerts pour réparer les brèches, les murailles et les portes. Et quel merveilleux service, chers frères et sœurs, que d'être des réparateurs des brèches, d'être des consolateurs, d'être ceux qui sont encourageants dans l'Assemblée. Une influence positive. Et pour cela, ce n'est pas nécessaire que nous sommes très doués, avec des grands dons. Non. Par exemple, entre parenthèses, pourquoi il y a si peu de frères qui prient, par exemple, dans la réunion de prière? Est-ce que nous pensons que pour cela, il faut avoir un don pour prier? Si on n'a pas besoin donc d'un don, mais pourquoi est-ce qu'on reste silencieux dans la réunion de prière? Oh, que le Seigneur augmente en nous le besoin de prier ensemble dans la réunion de prière. Il y a tant de besoins. Il y a donc, premièrement, ce fait que tous ceux dans ce chapitre ont des citations honorables. Il y en a ceux qui sont distingués entre les autres plus. Et c'est, par exemple, Baruch dans le verset 20. Nous lisons dans le verset 20, « Après lui, Baruch, fils de Zabia, répara avec zèle. » Que c'est merveilleux. Zèle. Un saint zèle. Qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit en Romains 12? Fervente en esprit. Ah, aujourd'hui, on a peut-être perdu cela. On a tellement craintif de manifester des émotions, autrement on devient charismatique ou pentecôtiste, on dit, que nous nous veillons de manifester des émotions. Il faut surtout pas des émotions. Ah, l'amour. Comment l'amour peut être sans émotions, frères et sœurs? C'est une froideur. C'est un frigérateur. Ah non. Une fraîcheur de l'esprit. Un saint zèle. Avec émotion servir le Seigneur. Oui, une sainte émotion. Alors voilà, ce frère Baruch, vous savez, ça veut dire béni. un esprit béni, un esprit d'enthousiasme pour le Seigneur et de foncer avec un enthousiasme pour lui, un saint zèle. Nous venons de chanter cela dans notre cantique. C'est facile de chanter. C'est une autre chose que de mettre en pratique. Galates 4, verset 18. Il est bon, dit l'apôtre Paul, d'être toujours zélé pour le bien. D'être toujours zélé pour le bien. Combien de fois, même parmi les enfants de Dieu, même parmi frères et sœurs, on est beaucoup trop zélé, pas pour le bien. On est zélé pour faire des divisions. On est zélé de critiquer. On est zélé de semer de rancune. Oh, que le Seigneur nous aide, et moi le premier, d'être zélé toujours pour le bien, avec un esprit de ferveur pour le Seigneur Jésus. Deuxièmement, il y avait aussi des sacrificateurs qui bâtirent la porte des brebis, le verset premier. C'est intéressant d'étudier toutes ces portes, ces 10 portes de Jérusalem, on n'a pas de temps ce soir. Mais déjà, la porte des brebis, elle nous parle de quoi? C'est par cette porte qu'on conduisait, qu'on faisait entrer et passer les brebis pour les sacrifices de chaque jour sur l'autel du temple. Ça nous parle donc déjà des choses fondamentales. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est là que nous commençons avec Christ crucifié. Il faut toujours donc revenir au pied de la croix et de réaliser Christ crucifié pour moi, mais aussi, et c'est cela que nous manquons si souvent, à appliquer, moi je suis crucifié avec lui. Avec lui, le moi crucifié, la propre volonté crucifiée avec lui. Je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Porte des brebis, mais aussi, si cela nous parle des sacrifices offert à l'Éternel. Est-ce que cela ne nous parle pas non plus que nous avons donc la responsabilité, frères et sœurs, de pouvoir augmenter les louanges dans le culte autour du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir ramasser des fruits spirituels pendant la semaine et de les mettre dans notre corbeille, d'être un homme 26 et de venir de les placer. Les fruits de nos lèvres, culte, louange. Et même si les sœurs n'ouvrent pas leur bouche dans l'assemblée, ils prient pour les frères avec ardeur, afin que les frères puissent interpréter les louanges de l'assemblée devant le Seigneur, devant l'Éternel, dans l'oreille de Dieu, le Père. Voilà, augmenter le volume des louanges dans l'assemblée. Quel privilège! Pour cela, on n'a pas non plus besoin d'un grand don, simplement de piété et simplement d'un esprit humble. Troisièmement, il y avait plusieurs qui n'habitaient pas à Jérusalem, mais qui montraient néanmoins d'intérêt. Il y a dans le verset 2 ceux de Jéricho. Il y a dans le verset 7, ceux de Gabaon. Il y a dans le verset 7 aussi de Mitzpah. Dans le verset 13 de Zanaor. Il n'était donc pas Jérusalem, mais il était néanmoins intéressé d'avoir l'intérêt de porter le souci, de mettre son épaule sous le fardeau, d'être en aide. Ah, voilà un don spirituel. En 1 Corinthiens 12, je pense à le verset 28, on a encore une autre liste des dons spirituels. Et parmi cela, c'est un tout petit don. Aide. Aider. Qu'est-ce que ça veut dire que d'aider? Pour augmenter, pour faciliter les mouvements spirituels dans une assemblée. Voilà, c'est une aide. Tout le monde peut le faire. Frères et sœurs, une aide. Ils sont là pour aider. Jéricho, ça veut dire parfum. Gabaon, petite colline, une élévation. Quand on vit tout près du Seigneur, élevé, sur la montagne avec lui. Le parfum de Christ sera répandu à travers nos vies. Pour cela, il faut avoir mitzvah. Ça veut dire une tour où on veille, pour veiller, se garder de danger. Et Zanouach, dans le verset 13, ça veut dire rejeter, de rejeter tout ce qui n'est pas selon le Seigneur. Il y en avait aussi d'autres qui fournissaient de matériel, qui fournissaient pour une œuvre constructive, il faut de matériel. Et pour que l'édifice spirituel monte, l'assemblée soit édifiée, il faut de matériel spirituel. Est-ce que nous pouvons, chacun de nous, apporter, pour ainsi dire, de matériel spirituel? Il y a une pensée très touchante à la fin de l'évangile de Luc, quand le Seigneur Jésus se trouve parmi ses disciples. Ils ne peuvent pas croire que c'est la réalité, que Christ ressuscité est devant leurs yeux. Mais il dit, donne-moi quelque chose à manger. Et il donne du poisson et aussi du miel. Et quelqu'un a remarqué que c'est beau ce symbole. Ce miel, c'est donc le résultat de beaucoup d'abeilles, des centaines d'abeilles qui sont allées loin pour apporter le miel, des fleurs. Et sont tous revenus au centre. Et c'est là qu'ils ont déposé ce qui est pour la satisfaction de celui qui mange. Le Seigneur Jésus-Christ est là dans l'assemblée. Qu'est-ce que c'est merveilleux de pouvoir, ensemble, comme des abeilles, apporter de ce qui est pour la satisfaction de notre Seigneur Jésus. Apporter de la matérielle spirituelle. Frères et sœurs, ceux de Beth Hakerem dans le verset 14, ceux de Mitzpah dans le verset 15, ceux de Beth Sur dans le verset 16, et ceux de Kehila dans le verset 17 et 18, et ce sont tous des chefs de ces endroits. Beth Hakerem, Mitzpah, Beth Sur, Kehila, des chefs, ceux qui sont de devant, qui sont des modèles, qui doivent donner un exemple aux autres. Mais il y en a ceux qui nous regardent, il y en a des jeunes croyants parmi nous qui regardent des moins jeunes, les frères et les sœurs, dans notre comportement. Est-ce que nous sommes les moins jeunes? Est-ce que nous sommes vraiment des modèles pour nos jeunes, dans tout ce que nous faisons, des chefs qui apportent le matériel spirituel pour l'accroissement spirituel de l'Assemblée. Il y a donc aussi ceux qui étaient des associés. Dans le verset 6, nous lisons cette expression, Yehoiada, fils de Paseach, et Monsieur Lamour. C'est le seul verset où on a cette conjonction « et » un frère avec un autre « et ». Ce qui est remarquable, chers frères et sœurs, après le jour de Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu pour demeurer dans les enfants de Dieu, nous voyons tout de suite, dans le chapitre 3e, Pierre et Jean en route pour le temple. Est-ce que vous pouvez vous imaginer deux personnes si différents de caractère qu'un Pierre et un Jean, ils pouvaient donc, s'ils voulaient, rester opposés comme caractère. Mais non, par la plénitude de l'Esprit qui habitait en eux, ils ont réalisé qu'ils pouvaient se compléter les uns les autres. Jean a réalisé qu'il avait besoin de Pierre, et Pierre a réalisé qu'il avait besoin de Jean. Que c'est merveilleux. Que de réaliser, nous avons besoin les uns les autres. Et alors, Yehoiada, ça veut dire Yahweh sait, connaît, et Meshulam, ça veut dire réconcilier. Ils se sont donc réconciliés, ces deux. Ils ont mis à compter leurs différences. Ils ne regardent pas ce qui les divise, ce qui peut les diviser comme des personnes dans leur nature. Ils sont réalisés ce qui les unit pour pouvoir utile ensemble. mais le Seigneur les a envoyés aussi deux à deux. Il y a dans le verset 12 aussi une chose très frappante. Il y avait là une famille qui répara. Le verset 12, le chef de la district, c'était donc Shalom, fils d'Alochesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. On parle aujourd'hui de generation gap, ça veut dire la distance entre la jeunesse et ceux qui sont moins jeunes. Ça ne doit pas se manifester du tout dans l'assemblée de Dieu. S'il y a un respect mutuel, si les jeunes respectent leurs frères et sœurs qui ont plus d'expérience, parce que ils voient dans ses frères et sœurs le Seigneur Jésus, ils auront le respect. Et aussi si les frères et sœurs qui sont plus âgés, plus longs dans le chemin, aient un peu de patience aussi avec la jeunesse. Nous avons passé par les mêmes fautes et faux pas. Et combien de fois le Seigneur nous a relevés, il nous a pardonnés. Alors d'avoir patience et de douceur, de bonté, c'est une attitude mutuelle. Et cela doit se cultiver parmi les enfants de Dieu. Ça ne vient pas automatique. Il faut le cultiver, le respect mutuel et l'amour mutuel. Regardons un Paul et un Timothée. Voilà Paul qui était peut-être plus que 20 ans plus âgé que Timothée. Mais quelle communion entre ces deux hommes. Cela doit aussi se manifester dans nos assemblées entre les jeunes et les moins jeunes. Voilà un père avec ses filles. Que c'est merveilleux de pouvoir ainsi servir le Seigneur en famille. En famille. Il y a aussi une autre pensée qui nous frappe. Il y avait deux, ceux qui ont été distingués par leur fidélité. Nous avons vu cela dans les versets 10, 23, 29 et 30. Distingués par leur fidélité. Commençons chez eux, à la maison. Il y en a ceux qui recevaient aussi des désapprobations. Peut-être cela vous a déjà frappé dans le verset 5. Et à côté d'eux, réparèrent des Tekoïtes, mais, ah, que c'est dommage. Ce petit mot, mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service du Seigneur. Est-ce que cela se peut appliquer à quelqu'un ici ce soir de ne pas vouloir courber sa tête devant le Seigneur? De ne pas vouloir plier son cou devant le Seigneur, de le chanter Seigneur Jésus-Christ, de le dire dans la prière Seigneur Jésus-Christ, de parler du Seigneur Jésus-Christ et de nier cela, la seigneurie de Christ dans sa vie. Quelle contradiction. Voilà ici des chefs, des principaux qui ne voulaient pas plier leur cou dans le service du Seigneur. Quel défi pour nous tous ce soir, frères et sœurs. Peut-être ils se sentaient importants. Peut-être ils se sentaient mieux que les autres. Ils ne voulaient pas se saillir leurs mains, souiller leurs mains, se fatiguer. Bien, on peut choisir. On peut choisir. Aussi ce soir encore, on peut choisir de ne rien faire pour le Seigneur Jésus. Il y en a d'autres qui ont été distingués par la quantité de l'activité qu'ils ont déployée. Nous voyons cela, par exemple, dans le verset 13. Hanun et les habitants de Zanoah réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent, posèrent les bâtons et ses verrous et firent 1000 coudées de la muraille. 1000 coudées, alors ils ont mis leur tout. Toute leur énergie dans ce qu'ils faisaient. Et Hanun, ça veut dire favoriser, mais privilégier. Quel privilège de pouvoir servir le Seigneur. Et Zanoah, ça veut dire ceux qui rejettent. Nous avons déjà vu cela. Mais il y a un verset qui nous frappe. en Hébreux 12. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Rejetez tout ce qui nous enveloppe, qui nous empêche de courir, de servir le Seigneur Jésus avec zèle. Il y en a aussi d'autres qui sont mentionnés, ceux de Méremoth, dans le verset 11. Méremoth est dans le verset 21. Nous voyons donc Méremoth qui est mentionné. Méremoth, ça veut dire élévation. Et ils sont mentionnés parce qu'ils ont accompli une autre portion. Ils n'ont pas seulement achevé leur responsabilité, leur devoir, pour ainsi dire, mais ils ont ajouté encore plus que les autres. Ils étaient donc libres de faire plus que nécessaire. Comme le Seigneur nous dit dans les évangiles, si quelqu'un te demande d'aller 1 mille, alors marchez avec lui 2 mille. Si quelqu'un te demande, donne-lui plus que nécessaire. Un esprit libre, un esprit généreux. Que c'est merveilleux que les enfants de Dieu sont donc marqués par un esprit généreux. Une seconde portion. Il y a d'autres qui sont distingués pas par la quantité de leur activité, mais par la qualité. Ça, c'est très important, la qualité. Et c'est avec cette pensée que je vais finir. Nous voyons donc dans le verset premier, Éliashib, le grand sacrificateur, avec ses frères, se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Et ils la sanctifièrent et posèrent les bâtons. Point. Virgule. Mais ils n'ont pas mis les barres. Et ils n'ont pas mis donc ce qui était nécessaire pour la protection, les verrous et les barres. Mais dans le verset 3e, les fils de Sena bâtirent la porte des poissons. Ils en firent les charpenteries et posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Nous voyons donc un manque d'exactitude, un manque de dévouement avec ce sacrificateur, Éliashib. Et cela nous a montré dans le chapitre 13e, ce dernier chapitre de ce livre de Néhémie qui nous frappe. Parce que Néhémie arrive après une absence à Jérusalem, et dans le verset 3e, 4e du chapitre 13e, nous voyons, et il arriva que lorsqu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d'Israël tout le peuple mélangé. Et avant cela, Éliashib, le sacrificateur de notre chapitre, établit sur les chambres de la maison de notre Dieu, allié de Tobija, lui avait préparé une grande chambre. Verset 7. Et je vins à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'Éliashib avait fait en faveur de Tobija, en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. Et je trouvais cela fort mauvais. Et encore à la fin de ce chapitre, le verset 28. Et l'un des fils de Joïada, fils d'Éliashib, le grand sacrificateur, était gendre Sambalat, le Horonite. Imaginez-vous, pourquoi il n'a pas mis ses verrous et les barres? Il avait déjà la semence d'une infidélité dans son cœur. Il était déjà presque en liaison avec l'ennemi. Dans le chapitre 4e, nous voyons qu'il y en avait ceux des Juifs qui vivaient tout près de l'ennemi. Oh, que nous nous veillons, chers frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons. Pas seulement la quantité, mais la qualité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte donc aussi dans le chapitre 3e des Corinthiens que chacun considère